Radio Prague, les informations.
Le procureur tchèque proteste contre les accusations de Jiří Čunek. Selon Václav Klaus, la partie américaine ne compte pas avec une mission durable de soldats russes en Tchéquie. Les mesures prises contre la manifestation des néo-nazis à Prague. Le procureur tchèque proteste contre la récente déclaration du vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire sortant Jiří Čunek, qui s'est prononcé pour les purges dans les bureaux de procureurs et dans la police. L'Union des procureurs tchèques a appelé Jiří Čunek à présenter les preuves de ses affirmations, selon lesquelles il ne serait pas difficile aujourd'hui d'acheter aux procureurs des informations compromettantes. Lors des pourparlers avec les dirigeants russes sur une éventuelle construction d'une station radar sur le territoire tchèque, les Américains ne comptent absolument pas avec une mission durable de soldats russes en République tchèque. C'est ce qu'a déclaré à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'État le président tchèque Václav Klaus. Le débat à ce sujet a été ouvert après la récente visite à Prague du secrétaire d'État américain Robert Gates. Ce samedi, il y aura dans les rues de Prague 1100 agents de police et 300 policiers municipaux. Selon le maire de Prague, la municipalité et la police ont pris cette mesure pour éviter des conflits, notamment dans les rues de l'ancien ghetto de Prague. C'est le jour anniversaire de la nuit de cristal, pogrom contre les juifs en Allemagne, et à cette occasion, les néo-nazis tchèques envisagent d'organiser un défilé dans l'ancien quartier juif. L'économiste Jan Švejnar, candidat à la présidence de la République, a rencontré le groupe communiste dans la Chambre des députés tchèques. D'après le chef du groupe, Pavel Kováčik, les députés communistes analyseront maintenant les réponses que Jan Švejnar a données à leurs questions pour pouvoir prendre une décision sur un éventuel soutien pour ce candidat. Il pourrait se prononcer sur ce problème le 13 novembre prochain, mais ce ne sera pas encore une décision définitive. C'est pour évoquer l'œuvre des époux Cory, ce lauréat du prix Nobel de médecine né à Prague, que la faculté des lettres de l'université Charles organise à partir de ce mercredi un séminaire. Y participeront entre autres des descendants de cette famille vivant aujourd'hui aux États-Unis et en Allemagne. Les biochimistes Gerta Teresa Radnitz-Cory et Carlo Ferdinand Cory ont reçu le prix Nobel en 1947, donc il y a juste 60 ans, pour leur contribution à la connaissance du processus de transformation des polysaccharides. Météo. Ce mardi, fête de toutes les Libiennas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été nuageux et il a plu ou neigé par endroits. Les températures diurnes se sont situées entre 3 et 7 degrés. Mercredi, le ciel en République tchèque sera couvert et il faut se préparer à la pluie ou à la pluie mêlée de neige et un vent très fort qui peut atteindre la vitesse d'un ouragan. Les températures diurnes s'échelonneront de 3 à 7 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour et merci à Václav pour ce bulletin d'information. Tout de suite, les faits et événements du jour. On commencera cette émission par la troisième édition du projet Histoire de l'injustice, qui cherche à faire ressurgir du passé les destins des hommes et des femmes ordinaires persécutés par le régime communiste dans les années 50. Quels sont les défis à relever pour la police des frontières et la police des étrangers avec l'entrée de la République tchèque dans la zone Schengen? Vous en saurez plus dans quelques instants avec Jarka Gisubelova. Mais l'Ektopolanek se complète-t-il trop dans la vulgarité? Alain Slivinski nous parlera d'une enquête qui montre que les Tchèques n'apprécient guère certains comportements de leur Premier ministre. Nous terminerons ce tour d'horizon de l'actualité en musique avec la découverte d'une chorale française de passage à Prague. C'est Anne-Claire Veluire qui se chargera de vous la présenter. Toute l'équipe de Radio Prague et moi-même vous souhaitons une agréable réception de cette nouvelle émission. Pour la troisième année consécutive, le projet Histoire de l'injustice, lancé par l'ONG L'Homme en détresse, s'attache à faire connaître les histoires des innombrables victimes trop peu connues du régime communiste tchécoslovaque. Notre collègue de Radio Česko, Adam Drda, est l'un des participants au projet. Chaque jour, du 1er au 16 novembre, il raconte dans le quotidien Lidové Noviny le destin d'un homme ou d'une femme qui s'est retrouvé emprisonné ou a été exécuté dans les années 50. À l'origine, le projet est né de la volonté de faire connaître aux collégiens et lycéens tchèques l'histoire récente du pays. L'époque communiste n'étant abordée que de façon très superficielle par les manuels, l'idée était de faire participer les écoliers directement. À eux de trouver des survivants, de réaliser des entretiens qui seraient ensuite présentés et publiés. Une formule qui, pour Adam Drda, avait fait ses preuves.
C'est très intéressant. En général, cela passionne les jeunes. On a toujours l'impression que c'est de l'histoire. D'ailleurs, un écrivain qui lui-même est un ancien prisonnier politique l'a très bien décrit. Pour les jeunes, les années 50, c'est comme la guerre de 30 ans. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les adolescents âgés de 15 à 18 ans réagissent avec beaucoup d'intérêt. Ils disent « Mais on ne savait pas du tout que c'était aussi dur ». Et s'il y a des personnes qui ne s'y intéressent pas, ce sont plutôt les générations âgées de 40, 50, 60.
Aujourd'hui, le projet a pris de l'ampleur. Cette année, une exposition est installée sur la place Venceslas, en plein cœur de Prague. Un camp a été monté qui représente les dizaines de camps similaires où étaient enfermés hommes et femmes durant les années noires. Présenter des personnes ordinaires, c'est aussi l'objectif des portraits présentés dans Lidové Noviny. Si l'on connaît le destin de grandes figures historiques, la répression a cependant touché l'ensemble de la population, comme le rappelle Adam Drda.
Pour moi, vlastně jako nejobdivuhodnější jsou právě sedláci třeba, který...
Pour moi, ce sont par exemple les paysans qui me semblent les plus admirables. Des gens qui ne voulaient pas combattre, mais vivaient dans leur ferme, sur un terrain qui leur appartenait depuis des centaines d'années. Ils ont été persécutés par le régime, mais nombre d'entre eux ont fait montre d'un grand courage. Il en va de même pour les croyants. La frontière entre la politique et la vie quotidienne, la foi, était très fragile. Ces gens n'ont pas fait de la résistance parce qu'ils l'avaient choisi, mais la résistance est venue de manière naturelle, car il s'agissait de croyants qui voulaient rester fidèles à leurs idéaux.
Les femmes n'ont pas échappé aux persécutions. Pour Adam Drda, une des histoires les plus intéressantes est celle d'Anna Magdalena Schwarzova, qui vit à Cracovie et appartient à l'ordre des carmélites pieds nus.
Elle est d'origine juive. Elle a été internée au camp de Térézine pendant la guerre. Dans les années 50, elle a rejoint une société secrète religieuse anticommuniste appelée La Famille. Elle a été emprisonnée pendant une dizaine d'années pour activité contre l'État. En effet, elle se rendait dans des couvents où étaient internés des prêtres et leur apportait des choses, servait d'intermédiaire. En 1960, elle a été amnistiée et libérée. Puis, dans les années 70, elle est de nouveau entrée dans l'opposition. Finalement, alors que tout le monde émigrait à l'ouest, elle a émigré dans un autre pays du bloc de l'Est, mais pour rejoindre un couvent.
Histoire de l'injustice, un projet pour que les mots « victimes du stalinisme » ou « procès politique » ne soient pas de simples expressions qui se vident de leur sens à force d'être répétées. Car, comme le rappelle Adam Drda, c'était encore pire que ce que nous imaginons. Sans transition, que deviendra la police des étrangers et des frontières lorsque la République tchèque aura intégré l'espace Schengen? Des réponses avec Jarka Gisubelova, qui a rencontré des responsables de la direction de la police des étrangers à Prague.
Après la suppression du contrôle des marchandises, le 1er mars 2004, date de l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne, l'intégration de l'espace Schengen est une nouvelle étape de l'intégration européenne qui mettra fin au contrôle des personnes. Et la date est déjà toute proche. Les contrôles aux frontières terrestres s'arrêteront le 21 décembre 2007 et ce, dans les aéroports, en mars 2008. Concrètement, 148 points de passage frontière disparaîtront. Les contrôles seront maintenus dans une vingtaine d'aéroports internationaux. Le rôle de la Tchéquie dans l'espace Schengen sera de contrôler de manière conséquente les frontières extérieures de l'Union européenne dans les aéroports. La nouvelle tactique consistera dans une plus large coopération internationale. Selon Vladislav Husák, adjoint du directeur de la police des étrangers et des frontières, de nouveaux centres de communication seront mis en place en direction de la Bavière, de la Saxe, de la Pologne et de l'Autriche, s'inspirant d'un centre identique qui existe déjà à Fort im Wald, à la frontière tchéco-allemande. La tâche des nouveaux centres, qu'il appelle les inspectorats de police, sera la suivante.
La prévention de la migration illégale, de la violation du régime de séjour, du travail illégal et des activités criminelles dans les zones limitrophes.
L'intégration de l'espace Schengen nécessitera une profonde restructuration de la police des étrangers et des frontières et une réduction de ses effectifs de 7197 employés actuellement à 4868 après le 1er janvier 2008. Une partie des policiers seront incorporés dans les rangs de la police dans les villes et communes les plus proches de l'ancienne frontière pour que la sécurité des habitants ne se dégrade pas. Autre aspect de l'intégration de l'espace Schengen, la Tchéquie assumera l'entière responsabilité de la livraison des visas. Il y aura deux types de visas, européens délivrés pour une durée de 3 mois et national, qui va au-delà de ce délai. L'entrée dans l'espace Schengen modifiera aussi la situation des personnes possédant un titre de séjour de longue durée en Tchéquie. Pendant 3 mois, ils auront le droit de circuler librement dans l'espace Schengen. À la question de savoir si la République tchèque est bien préparée à son entrée, Miloš Vacek, adjoint du directeur pour les relations internationales, a rappelé que 3 évaluations de l'Union européenne étaient effectuées à cette fin, la coopération policière, la protection de la frontière aérienne extérieure et l'emploi du système d'information SIS-2, et que la République tchèque y avait satisfait le mieux de tous les pays d'Europe de l'Est.
Le quotidien national Lidové Noviny a publié en une et en page 3 de son édition de ce mardi les résultats d'un sondage d'opinion exclusif dont le Premier ministre Mirek Topolánek est l'objet. Le sondage réalisé par l'agence Median s'est concentré sur ce qui déplaît aux citoyens tchèques. Alain Slivinsky.
Le grand titre de la première page de Lidové Noviny est éloquent. Zéro de conduite au Premier ministre. Le 8 novembre, il y aura un an que Mirek Topolánek, président du Parti civique démocrate, aura été chargé de former son gouvernement suite à sa victoire aux législatives de juin 2006. Un gouvernement qui n'entra en fonction que le 9 janvier 2007, après un vote de confiance difficile à la Chambre des députés. Toute la troisième page du quotidien est justement consacrée à cette année vue par les 720 participants au sondage d'opinion réalisé entre le 1er et le 16 octobre dernier. Il en découle que pour 56% des personnes interrogées, Mirek Topolánek ne serait pas à la hauteur dans son rôle de chef de gouvernement. Plus de 46% ne sont pas satisfaits de sa conduite et près de 25% de son vocabulaire. Le quotidien écrit que les politologues pensent que le Premier ministre a contribué à la formation de l'image négative qu'il présente au public par certaines de ses déclarations ou autres exactions, comme son majeur levé lors du discours d'un député communiste à la Chambre ou des grossièretés à l'adresse des journalistes. Par contre, le commentateur de Lidové Noviny, Jan Martinek, écrit « Selon le sondage, l'opinion est assez tolérante en ce qui concerne la vie privée de Topolánek. Sa situation familiale ne déplaît qu'à 16% des personnes interrogées. Ses collaborateurs ne sont pas l'objet de critiques non plus, comme par exemple son conseiller très controversé Marek Dalík, que 5% seulement considèrent comme un problème. » D'après le politologue Jaroslav Bourège de l'Université Charles, le point faible de Topolánek réside dans sa manière de présenter les choses, dans ses problèmes de communication. Il affirme, nous citons, « Il est assez conflictuel, il se concentre trop sur sa politique de défense, les problèmes de son cabinet, défend son gouvernement et ses ministres, au lieu de présenter des projets qui seraient bénéfiques pour le pays. »
Avec le week-end de la Toussaint, les rues de Prague se sont gonflées de touristes venus d'Italie, d'Espagne, de France ou d'ailleurs. Parmi eux, un groupe de Français qui sont arrivés dans la capitale tchèque pour accomplir un projet particulier, celui de chanter avec leur chorale dans une église pragoise. Anne-Claire Veluire.
Plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires pour organiser un voyage avec près de 40 personnes, mettre en place un programme et trouver un lieu de concert. Mais le chœur Grimaud a chanté vendredi 2 novembre dans l'église Saint-Joseph de Malastrana, à deux pas du pont Charles. Sébastien Dimayo, le jeune chef de chœur, nous présente sa chorale.
Nous sommes un chœur qui vient du sud de la France, l'Île-sur-la-Sorgue, une ville juste à côté d'Avignon. Un chœur qui existe depuis 35 ans, donc je dirige depuis 5 ans maintenant, et qui vient pour la première fois à Prague et qui a la chance et le plaisir de donner un concert dans cette si belle ville.
Qu'est-ce que vous chantez ?
Donc là, un programme qui sera plutôt axé sur la musique sacrée, une messe de Franz Schubert accompagnée à l'orgue, quelques pièces de musique russe et de musique d'Europe de l'Est, et ensuite une deuxième partie avec de la musique française ancienne, Clément Jeannequin, on est à la Renaissance, et puis Fauré et Gounod, musique romantique 19e française. On a essayé de transporter notre culture.
Tu m'avais dit que vous rêviez d'organiser un voyage à Prague et de chanter dans une église à Prague. Pourquoi ?
C'est un rêve, j'allais dire, de notre présidente, puisque le chœur est organisé en association, et puis aussi l'envie de partager avec les choristes quelques jours dans cette ville chargée d'histoire, une ville de rêve pour nous, puisque c'est vrai qu'en tant que Français, on entend parler de Prague, on voit des photos, et on connaît l'histoire, et on avait envie de venir découvrir cette ville-là, partager quelques moments ici. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Les 3 jours de découverte, puisqu'on est arrivé mercredi, de visites, de balades à travers la ville, nous ont permis de concrétiser le rêve et de nous ravir les yeux.
C'est une ville qui est connue pour la musique. Qu'est-ce que vous en avez reçu ? Qu'est-ce que vous en avez aperçu ?
Qu'est-ce qu'on en a reçu ? On a pu, j'allais dire, d'un point de vue visuel, on est allé visiter les musées, aller chercher quelques partitions. On s'est rendu compte que la musique, effectivement, était bien présente dans cette ville. Mais après, c'est toute l'ambiance. On s'est un peu imprégné de l'ambiance, de ce qu'on peut ressentir, de toutes les émotions qui passent dans l'atmosphère de la ville. Et puis cette année, on a choisi aussi pour le concert du mois de juillet de chanter une messe, la grande messe en ré, qui a été écrite par Dvorak. Donc c'est vrai que chanter cette messe l'année où on vient à Prague, pour nous, c'est aussi mettre un petit peu de Prague dans notre concert de fin d'année.
Voilà, c'est avec cette chorale sympathique que prennent fin ces faits et événements en République tchèque. N'éteignez pas votre poste, tout de suite la rubrique favorite des radio-écouteurs.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Alain Slivinski est heureux de vous accueillir à l'écoute de l'émission destinée aux radio-écouteurs, à tous les amateurs des ondes courtes et de l'écoute des émissions internationales. Le micro est aujourd'hui à Roland Paget du Club Amitié Radio de Créteil.
Chers amis de Radio Prague, bonjour. Une nouvelle fois, quelques minutes ensemble pour ce tour d'actualité de la radiodiffusion internationale et plus particulièrement en langue française. Le dimanche 28 octobre, donc c'était le passage à l'horaire d'hiver, pour la plupart des radios internationales, l'occasion, comme chaque année, comme 2 fois par an, de revoir les grilles des horaires pour passer aux horaires d'hiver, et puis surtout les fréquences, puisque effectivement, en saison hivernale, les fréquences utilisées doivent être généralement beaucoup plus basses, du moins pour certains circuits, suivant que l'émetteur et le récepteur et l'heure de diffusion soient en diurne ou en nocturne, sachant que nous atteignons la fin du 23e cycle solaire d'activité solaire observée par l'homme et que donc les conditions de réception et de propagation dans les hautes fréquences, surtout en période nocturne, sont beaucoup plus difficiles. Alors les radiodiffuseurs internationaux fréquence, sachant que certains utilisant des relais de proximité pour diffuser entre 500, 1000 et 3000 kilomètres utilisent à ce moment-là pour cette période hivernale et cette période de basse activité solaire les bandes de fréquences les plus basses. D'ailleurs, à ce sujet vient de s'ouvrir depuis donc le 22 octobre et jusqu'au 16 novembre la conférence mondiale des radiocommunications à Genève sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications. Ainsi, tous les 4 ans, cette conférence permet de revoir, de faire une révision du règlement des radiocommunications au niveau international en y ajoutant ou supprimant certains articles, certains textes et surtout en réactualisant par rapport aux évolutions technologiques. Et puis également, c'est l'occasion aussi pour réorganiser l'affectation du spectre des fréquences radioélectriques en fonction des évolutions technologiques, mais également en fonction des besoins des utilisateurs, qu'ils soient privés, militaires, publics, radiodiffusion, télévision, téléphonie et tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui en matière de radiocommunication et qui utilise le spectre des fréquences radioélectriques. À ce sujet, d'ailleurs, les radiodiffuseurs internationaux réclament au cours de cette conférence une augmentation des plages de bandes de fréquences réservées à la radiodiffusion, notamment entre les bandes de 4 et 10 MHz. Ceci est bien pour pouvoir développer la diffusion en numérique, car en effet, la diffusion en numérique nécessite une largeur de bande plus importante de presque 10 kHz, alors que la diffusion numérique en analogique, pardon, telle que bien vous nous écoutez en ce moment, nécessite une bande de fréquence de largeur de l'ordre de 5 kHz. Donc, il est nécessaire effectivement d'avoir, bien entendu, pour pouvoir faire cohabiter le numérique et l'analogique, des bandes autorisées et officielles beaucoup plus importantes, sachant que la diffusion numérique sera privilégiée dans les basses fréquences, c'est-à-dire en dessous de 10-12 MHz. Pourquoi ? Parce que les conditions de propagation, comme je disais tout à l'heure, à moyenne distance sont quand même plus favorables, et pour le numérique, donc, de permettre de meilleures conditions de diffusion tout au long de l'année dans les basses fréquences et permettre ainsi à la diffusion en numérique de se développer, car en effet, la diffusion en numérique sur des très longues distances et dans les hautes fréquences est beaucoup plus sujette à des difficultés de réception, car en effet, si le numérique, lorsque le signal est suffisant, permet une très bonne qualité d'écoute, lorsque, eh bien, comme aujourd'hui, les ondes propagées sont sujettes à du fading, le numérique, malheureusement, ne pourra rien faire contre ces phénomènes, sauf si le signal est suffisamment puissant et que le récepteur suffisamment sensible pour pouvoir bien permettre une réception stable et exempte donc de ces phénomènes de fading, du moins pour l'écoute. Je vous ai donc parlé du changement d'horaire, de la mise en place des nouvelles grilles de diffusion. Sachez que si vous n'entendez plus la RAI internationale, la radio-télévision italienne internationale, depuis le 1er octobre, eh bien c'est qu'en effet, cette station a cessé depuis le 1er octobre toute diffusion en ondes courtes, que ce soit en italien ou dans les 25 langues, et ceci après plus de 70 ans de diffusion en ondes courtes vers l'extérieur. C'est une décision qui était prise. Et donc, la RAI, la Radiodiffusion Télévision Internationale, ne diffuse plus en ondes courtes, reste seulement en ondes moyennes pendant la nuit quelques brefs bulletins d'information en langue française qui existaient déjà sur la première chaîne de la radio-télévision italienne et audible donc plusieurs fois au cours de la nuit sur les fréquences ondes moyennes. Voilà, il va être déjà temps de nous quitter, de repasser le micro à nos amis de Prague. Je vous souhaite mes meilleures salutations radiophoniques, une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à très bientôt.
73 de Radio Prague, c'est maintenant terminé. C'est la fin aussi des émissions en langue française de Radio Prague.
Et rappelons, pour ceux qui souhaiteraient écouter et retrouver nos rubriques et nos reportages, rendez-vous sur notre site web www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur les ondes de Radio Prague. Bon vent, ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.